Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer une nouvelle fois un épisode avec la reine de la bouffe, Vertueuse. Elle connaît bien le business de la bouffe puisqu'elle a son propre restaurant et traiteur au cœur de Paris, une adresse moderne, engagée et gourmande. Je suis avec Elisa Gauthier, la fondatrice du restaurant Kiosque. Bonjour Elisa.
Salut Philibert. En effet, je suis d'autant plus ravie d'être là que notre invité et son associé avaient gentiment répondu à mes nombreuses questions quand je travaillais à l'ouverture de mon restaurant, et ils ont été dès le début un modèle de management humain et serein, couplé à une efficacité laser. Bref, vous allez le voir, on a plein de choses à décortiquer et à apprendre aujourd'hui.
Et oui, Elisa, nous recevons aujourd'hui une jeune entrepreneuse qui a révolutionné la scène food chinoise à Paris, et tout ça en moins de 5 ans. Avec son associé, ils ont littéralement cassé les codes et les préjugés de cette cuisine pourtant hyper riche et variée. Ils ont connu un succès fulgurant avec leurs 4 premières adresses parisiennes. Nous sommes avec Céline Cheung, la cofondatrice de Bao Family. Bonjour Céline.
Bonjour Philibert et bonjour Elisa.
Alors Céline, Elisa, je vous propose d'organiser notre discussion en 4 grands chapitres, comme on commence à en avoir l'habitude dans Business of Bouffe. Dans un premier temps, Céline, on va s'intéresser évidemment à ton parcours. On cherchera à comprendre comment ta double culture t'as orienté vers la restauration chinoise à Paris, et on verra que ça n'a pas été aussi évident que ça. Dans un second temps, on s'intéressera aux premières ouvertures et à leur succès immédiat, et on essaiera d'en comprendre les raisons, puis on évoquera vos développements récents, et tu nous expliqueras l'organisation de ce qui est devenu un véritable groupe, Bao Family. Et enfin, dans un dernier chapitre, on parlera de l'avenir. Tu nous raconteras les projets de développement à court et moyen terme de Bao Family, et on en profitera pour t'interroger sur ta vision du business de la bouffe. On va le découvrir, t'es hyper smart et créative, donc on se doute que tu auras des choses pertinentes à partager avec nos auditeurs. Bref, une nouvelle fois, un programme riche et alléchant. On y va, Céline, Elisa?
Allez, c'est parti.
Let's go.
Eh bien, ouvrons donc le premier chapitre et parlons de tes débuts. Mais avant ça, Céline, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir en détail sur ton parcours?
Alors, je m'appelle Céline, j'ai 34 ans, j'adore la bouffe, l'architecture, le design et la poésie, et du coup j'ai décidé d'en faire mes projets et de réaliser mes rêves autour de ça.
Voilà une intro bien précise.
Notre question rituelle, Céline, pourquoi la bouffe?
Alors, j'adorais toujours aller au restaurant. Donc avant d'ouvrir Bao, j'ai été consultante et j'ai aussi bossé dans le luxe.
Ouais.
Et en fait, dans mes activités pour décompresser, me faire du bien, mes activités préférées, c'était aller au restaurant avec ma famille et avec mes amis. Et c'était les moments, tu vois, dont je me souvenais, qui me marquaient. Et en fait, à chaque fois, enfin, j'étais vraiment, moi, la chasseuse de bonnes adresses à Paris. Donc, avant d'avoir mes propres restos, j'étais vraiment de l'autre côté de la table.
Ouais.
Et en fait, j'ai compris. Alors, j'adorais manger. J'ai toujours adoré manger. La cuisine, ça fait vraiment partie de mon héritage familial parce que ma mère a toujours cuisiné à la maison pour le petit-déj, pour le déj, pour le dîner, tous les jours. Et c'est ma grand-mère qui lui a appris à cuisiner. Donc j'ai toujours grandi dans une cuisine faite maison par mes parents. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure de ma vie que la cuisine, au-delà de bien manger, en tout cas dans ma famille et dans ma culture, ça représentait le langage de l'amour.
Ouais.
Et ça, j'ai compris vraiment sur le tard, parce que étant née dans une famille chinoise avec des valeurs très traditionnelles, c'est assez connu que voilà, dans la culture chinoise, on ne démontre pas forcément des signes d'affection, d'émotion, d'amour à travers les mots ou à travers les gestes.
On déclare pas, voilà.
On ne déclare pas exactement. Par contre, j'ai compris qu'ils le déclaraient à travers la cuisine. Et c'est-à-dire que mes parents m'ont jamais dit je t'aime de toute leur vie. Par contre, ils me disaient est-ce que tu as faim? Qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Quel produit tu veux? Et par contre, ils passaient des heures à aller chercher le meilleur produit au marché pour ensuite le cuisiner pendant 3 heures et ensuite le mettre sur la table à midi. Ouais. Et en fait, le temps, ils le passaient en fait à chercher des bons produits, à cuisiner avec amour et à partager ces moments-là avec nous, leur famille, mais aussi avec la famille élargie, cousins, cousines, tantes, oncles.
Ouais.
Et donc, j'ai compris qu'en fait, la table, la cuisine et des bons produits, c'était vraiment leur manière de témoigner finalement leur amour pour les gens qu'ils aiment et qu'ils soutiennent.
Très bel éclairage. On comprend maintenant et ça donne un rôle très central à la bouffe. Alors justement, reprenons le fil de ta vie. Parlons du début. Tu as commencé à en parler. D'où est-ce que tu viens, tes origines?
Ouais, alors du coup, je suis d'origine chinoise. Mes deux parents sont chinois. Ils viennent de la ville de Wenzhou. C'est une ville industrielle au sud de Shanghai, mais sur le littoral.
D'accord.
Mon grand-père, c'est le premier en fait à être venu en France.
D'accord.
Dans la fin des années 70. Et mon père, en fait, est venu quand il avait 16 ans, au début des années 80. Donc eux, en fait, ont fui la Chine pour des raisons économiques. Ils voulaient vraiment fuir la pauvreté, la famille, les conditions politiques. Du coup, ils ont choisi la France, qui est toujours vue en fait comme un grand pays avec un rayonnement incroyable. Donc, ils ont été attirés par les valeurs françaises. Mon grand-père a commencé, tu vois, par des petits boulots, forcément, taxi, journaux, jusqu'à ouvrir une boutique.
Ouais.
Et que mon père a repris. C'est une ancienne
boutique de quoi, oui.
De maroquinerie.
Donc pas la bouffe.
Non, pas la
mais
bouffe,
le commerce.
Mais le commerce,
ah,
exactement.
Voilà.
Exactement,
ouais.
Le retail.
Ouais.
Donc, ils avaient une boutique, une maroquinerie de vente, en gros.
Ouais.
Du coup, dans le cœur du Marais, dans le quartier rue du Temple.
D'accord.
Donc, ils étaient rue Saint-Méry, mais c'est vraiment le quartier qui avait été investi par cette communauté chinoise.
Mmh.
Donc, à l'époque, il y avait pas mal de maroquinerie. Donc, en fait, j'ai toujours grandi dans cette boutique-là. Donc, j'allais à l'école à côté, je rentrais et je faisais mes devoirs dans cette boutique et j'ai toujours été, du coup, en confrontation avec des clients. Donc, je viens de cette famille-là, chinoise, mais j'ai toujours grandi. Je suis née à Paris, j'ai grandi en France, toute mon éducation est française. Et du coup, j'ai grandi, en fait, dans cette double culture franco-chinoise.
Et quelle perception tu avais, toi, de la culture chinoise enfant?
Alors, je pense que en vrai, je pense que je me suis pas mal sentie rejetée parce que forcément, quand dans la famille et quand tu grandis dans cet environnement, t'as l'impression que ta culture est c'est les codes. Enfin, ce sont les codes de vie. Et quand je me retrouvais du coup à l'école avec mes amis, je comprenais que les codes finalement de vie, la valeur et la philosophie étaient différentes. Et en fait, les gens ne comprenaient pas forcément. Ce qu'on m'inculquait moi à la maison.
Quand tu dis rejeté, dans quel sens? Rejeté par la communauté chinoise ou par les Français?
Non, par les Français,
française.
Ouais.
D'accord.
Et notamment avec la cuisine.
Ouais.
C'est-à-dire que typiquement, nous on mange toujours avec des baguettes.
Mmh.
Et en fait, quand je disais aux gens je mangeais avec des baguettes, les enfants, parce que c'est des enfants finalement, ils n'avaient pas l'habitude de ça. Ils comprenaient comment ça tu manges avec des baguettes. Comment ça tu manges du riz à tous les repas? J'étais là, moi je mangeais, oui, je mange du riz blanc à tous les repas, midi et soir.
Il y a peu de Chinois autour de toi, c'est ça, ou à l'école?
Oui, en fait, à l'école, j'ai grandi dans le Marais.
Ouais,
du coup, j'habitais dans le Marais et j'ai allé à l'école dans le Marais, 3e, 4e. Et c'est vrai que dans toutes mes classes, de toute ma vie, j'étais la seule ou parmi les deux personnes de couleur en classe.
D'accord.
Et donc, en effet, j'étais en
minorité. En
minorité,
ouais.
Et du coup, c'est vrai que ces codes-là de culture, en fait, ils n'avaient pas forcément l'habitude de les rencontrer au quotidien. Donc, c'était vraiment nouveau pour eux. Et moi, naïvement, je leur racontais tout. Et c'est vrai que parfois, je me prenais quelques remarques. Et en fait, c'est de ça. C'est pas grave. C'est juste des choses qui ont marqué, en fait, mon...
Même, c'est intéressant que tu le racontes parce que ça explique certainement aussi
Exactement.
Beaucoup de choses.
Exactement.
T'essayais à ce moment-là de les effacer ou au contraire, t'assumais ou ça vient plus tard. Ta richesse et justement ta double culture.
Alors, c'est vrai que comme souvent, c'était des... Parfois, c'était gentil, mais parfois, c'était des moqueries.
Mmh.
Surtout quand... forcément, on m'a dit « Ah, vous mangez du chien », parce que ça, c'est un cliché qui est quand même bien répandu. Des fois, on me disait « Konnichiwa », c'est japonais, alors que moi, je suis chinoise.
Ouais, on mélange tout.
Enfin, on mélange tout, ouais. Exactement. Et
on
moi,
est dans
j'ai...
les gros clichés. Ouais.
Exactement. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, moi, j'ai été plutôt blessée, en fait, de ces remarques-là. Et ça m'a vraiment... C'est pour ça que je parle du mot « rejet », c'est que ça vraiment, ça me...
Tu l'as vraiment vécu comme ça, ouais.
Exactement. J'ai vraiment été blessée. Je me suis sentie rejetée, en fait, dans mon identité.
Mmh.
Dans le fait, en fait, d'être d'une autre origine, vivant dans un pays.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai essayé d'effacer ma culture pendant mon enfance. Donc, pendant toutes mes études, je voulais être française. Et je parlais comme une Française. Je vivais les codes comme mes amis. En fait, moi, je voulais totalement être intégrée à la société, aux codes. Et en fait, même donc, au fur et à mesure, je parlais même plus de ma culture. Et j'étais française. complètement.
Donc le réveil viendra après. Et à la maison, à l'inverse, comment ça se passe avec tes parents, avec ta famille? Raconte-nous le quotidien de ta vie à ce moment-là.
Ouais, alors à la maison, je parle le chinois et je parle un dialecte.
Ouais.
Et c'est même pas le mandarin qui est la langue officielle du pays, c'est vraiment le dialecte de la ville de Wenzhou, voilà, qui est parlé par que ces millions de personnes, ouais. Mais qui, j'espère que perdurera.
Ouais.
Donc je parle ce dialecte-là avec ma mère, mais en fait mon père parle français, parce que lui, il a toujours voulu, je pense, qu'on soit intégré. Il a toujours voulu pour nous, en fait, qu'on soit intégré à la société française. Du coup, il nous parlait français. D'ailleurs, c'est l'un des, c'est incroyable. Il a presque pas d'accent.
D'accord.
Lui aujourd'hui, quand il parle chinois, il a vraiment, il a lissé son accent, quoi. C'est incroyable. Et du coup, avec ma mère, je parlais toujours chinois. Avec mon père, français. On mangeait toujours chinois à la maison. Clairement, je connaissais pas ni le pain ni les pâtes. J'ai découvert les pâtes à la cantine quand j'avais 10 ans. Alors que c'est comme déjà 10 ans que j'habite en France.
Ouais.
Mais j'avoue que moi, à la cantine, mes parents ne voulaient pas que je mange à la cantine. Ils préféraient que je mange à la maison.
Pourquoi?
Parce qu'ils voulaient être sûrs, en fait, de la nourriture que j'allais mettre dans mon corps. Parce qu'en effet, en Chine, même la nourriture, en fait, a un effet sur ta santé.
On est ce qu'on mange.
Exactement. Et du coup, ils étaient très en contrôle sur la nourriture que je pouvais, moi, mettre dans mon corps. Et du coup, ils avaient peur de ce que la cantine pouvait me donner en termes de nourriture.
À l'époque, ils avaient peut-être raison. Ça a évolué depuis.
Pas tant que ça. Tant que ça.
Ouais, j'espère quand même un peu.
Ouais, mais et moi, en fait, c'est moi qui leur ai dit, mais moi, je me mange à la cantine. Ouais. Moi, je veux, parce que surtout que les moments géniaux que mes camarades passaient ensemble, c'était au moment de la cantine, au moment de la cour de récré.
Ouais,
enfin, tout se passait à ce moment-là.
Le lien social, il se fait là.
Ouais. Exactement. Et moi, je me sentais coupée de ce lien social alors que je voulais le vivre. Et j'aurais fait non, moi, je veux manger à la cantine. Faites-moi manger à la cantine. Je pense qu'il n'y a personne qui réclame de manger à la cantine aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je voulais en fait vivre ce moment-là. Et je me souviens, quand j'ai mangé mes premières pâtes, les jambons coquillettes.
Le grand classique. J'étais là. Tu n'avais jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Le fromage. Mais alors, je trouvais ça incroyable.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu découvres les coquillettes au jambon?
Ah ouais, non, mais pour moi, je trouvais ça exceptionnel. Enfin, j'étais trop. Parce que hyper réconfortant, le fromage, trop addictif. C'était jamais ce que j'avais pu manger et trop umami quand même.
Ouais, ouais.
Incroyable. Et pour moi, ça a été une révélation. Le yaourt. Mais non, mais. Mon premier yaourt nature où je mettais du sucre dedans. Pour moi, c'était incroyable.
Des choses simples. Voilà.
Ah ouais.
Et pourtant, on y reviendra. La cuisine chinoise est hyper, hyper riche. Mais donc, tu découvres très tard la gastronomie. Voilà, la gastronomie, c'est peut-être un grand mot, la cuisine française.
Mmh. Tu parles de la place centrale de tes parents dans ta vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis à cette époque? Qu'est-ce que tu retiens de ton éducation?
Alors, ils m'ont transmis, je pense, trois valeurs fondamentales avec lesquelles je vis encore aujourd'hui. La famille, forcément. La famille, parce que dans la culture chinoise, on vit... Le cocon familial est très important. Grands-parents, parents, enfants. Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents dans la même maison que mes parents. C'est un noyau qui est vraiment très, très fort. Et au-delà de ce noyau, il y a aussi toute la famille un peu plus éloignée, tante, oncle, cousin, et on passait beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Et du coup, les valeurs familiales sont fondamentales. La deuxième valeur, c'est le travail.
Ouais.
Ils m'ont toujours, en fait, accompagné dans la réussite scolaire, mais accompagné de manière...
Pression.
Ouais, ça veut dire violente.
Voilà, accompagné, mais ça voilà. Rigolait pas. Quoi. Donc,
voilà.
Éducation stricte.
Éducation très, très stricte.
Ouais.
C'est-à-dire que je pense qu'en maternelle, je devais déjà être la première de la maternelle. Hein.
Enfin, vous savez très bien découper voilà. Et colorier.
Exactement. En fait, mon père, essentiellement, on suivait mon éducation de très près. Il fallait que je sois la meilleure de la classe tout le temps.
Ouais.
Tout le temps. Et ça a été vraiment très dur parce que j'ai vécu cette pression-là très jeune.
Et après encore, je crois qu'on y reviendra.
Ouais, complètement. Et après, je pense que la dernière valeur, c'est l'entraide. C'est-à-dire que même très jeune, j'aidais en fait mes oncles et tantes qui venaient s'installer en France à traduire leurs documents pour avoir leurs papiers. Je les accompagnais pour aller chez les médecins parce qu'en fait, ils parlaient pas français. Et en fait, cette valeur d'entraide, elle est aussi fondamentale parce qu'en fait, on vit aussi pour la communauté et on aide la communauté.
Qu'est-ce que tu rêvais de faire, gamine, plus tard? restauratrice?
C'est venu plus tard. Non, mais je pense que ce que je rêvais, parce que à force d'être, tu sais, dans cette boutique avec mes parents, et en fait, je voyais les clients qui venaient tous les jours. Et en fait, moi, je crois que j'adorais parler aux clients. J'adorais les observer, être en interaction avec eux. Et en fait, je pense que petite, je me disais déjà, un jour, j'aurai mon propre lieu. Je me rêvais déjà dans un lieu, et je savais que je voulais avoir le mien. Et pas celui de mes parents, parce que c'était aussi une option que je reprenne le business de mes parents. Mais non, je pense que je rêvais d'avoir mon propre lieu, mais je savais pas encore
pas
quoi.
Pas forcément la bouffe, peut-être dans la mode, mais voilà, un lieu.
Parle-nous tes études ensuite, post-bac, qu'est-ce que tu as fait?
Alors du coup, après, donc j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une prépa HEC à Paris, et ensuite j'ai fait une école de commerce, celle de Grenoble.
Donc les choses sérieuses en effet, donc là ton père avait raison d'insister. Donc plutôt des études brillantes, bon élève, ça se passe comment les études?
Alors mon père était pas content.
Pourquoi?
Parce que j'ai pas eu HEC.
Ah ouais? Ah donc la pression, numéro un.
Ah oui, exactement.
Il faut être numéro un. Ah ouais, d'accord, ça rigole vraiment pas à la maison.
Ah non, non, et il m'a pas parlé pendant une semaine.
D'accord.
Après
les résultats.
Après
ouais.
les résultats, parce que je n'avais pas eu la meilleure école. Ouais. Ça a été, je pense, le moment, le coup de grâce pour moi. J'étais là, j'ai travaillé pendant 2 ans en prépa, non-stop. Et en plus, le week-end, je bossais pour mes parents, dans leur boutique. C'est-à-dire que je bossais comme une malade, et ensuite, je les aidais le week-end, et je travaillais pour eux.
Ouais.
Sans rémunération, pour les aider en fait.
La solidarité dont tu parlais, et puis le sens de la famille, deux des trois valeurs dont tu parlais. Ouais.
Exactement. Et du coup, moi, c'est un moment qui a été très difficile à digérer pour moi, parce que j'avais donné beaucoup. Et en fait, ce silence, c'était vraiment pas évident à le gérer. Mais après, j'ai fait Grenoble, c'était exceptionnel.
Quel souvenir tu gardes de tes études?
Pour moi, ça a été la liberté.
Ouais.
Vraiment.
Que tu quittes Paris, donc tu quittes le cocon familial à ce
Exactement.
Moment-là. Tu vas dans une région Rhône-Alpes qui est plutôt cool.
Exactement.
Tu découvres les montagnes.
Je découvre les montagnes. Exactement. Ouais. Je tombe amoureuse des montagnes. Je fais du ski pour la première fois.
Ouais. Ça aussi, c'est une belle découverte.
Non, pour moi, c'était vraiment le moment où j'ai pu enfin me libérer, à la fois du cocon familial, de Paris. Et en fait, c'était la première fois où je sentais que je commençais à m'exprimer moi. Mmh. Enfin, moi, Céline, et plus Céline, la fille de ses parents.
Et qu'est-ce que tu as envie de faire en sortant d'école de commerce? Est-ce que l'entrepreneuriat était déjà une option? Ou est-ce que tu partais sur une voie un peu plus classique, en effet, de bon élève, consulting, finance?
Alors, en fait, ce qui s'est passé à Grenoble, c'est que j'en ai profité lors de ma troisième année pour faire un échange à Shanghai. Je voulais partir en Chine parce que à ce moment-là, j'étais déjà, je pense, en redécouverte de moi-même et j'avais besoin de voir la Chine par mes propres yeux. C'est-à-dire qu'avant, je la voyais à travers les yeux de mes parents. J'allais tout le temps dans le village de mes grands-parents tous les ans. J'étais à Shanghai une fois, à Pékin une fois, mais en fait, je connaissais rien de la Chine. En fait, c'est un continent. Et du coup, pour moi, c'était important de vivre cette expérience-là toute seule, sans eux. Et donc, j'ai fait cet échange à Shanghai. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment voyagé dans beaucoup de régions de Chine, Yunnan, Sichuan, le Sud, Pékin. Et c'est là où j'ai découvert en fait la magie culinaire chinoise.
Ouais.
Et en fait, après Shanghai, j'avais deux options. L'une, c'était d'entreprendre à Shanghai. En fait, on m'avait proposé d'ouvrir une filiale d'une boîte française à Shanghai.
Quel type de business?
C'était une boîte de conseil.
D'accord.
Et du coup, ils voulaient ouvrir leur première filiale. Et moi, clairement, je voulais ça parce que c'était l'entrepreneuriat plus... La Chine, c'est deux choses qui sont très importantes pour moi.
Ça viendra après.
Exactement. Mais en fait, à cette époque-là, j'ai préféré suivre mon ex de l'époque.
D'accord.
Qui, en fait, avait un job à Paris. Et j'ai fait le choix de l'amour.
Ouais. C'est un bon choix.
C'est un bon choix.
Ouais. Et tu vas où? Alors, tu bosses pour qui?
Alors, et donc, je bosse pour Wavestone, qui est une boîte de conseil. Et je bosse pour eux pendant 3 ans. Mais en fait, au bout de 2 ans, je savais déjà que ça ne me plaisait pas. J'avais fait le tour, j'avais appris, c'était intéressant. Mais clairement, au fond de moi, je savais que là, c'était le moment d'entreprendre. En fait, je voulais entreprendre après l'école. Juste, je me sentais pas encore capable et j'avais pas encore le projet en tête pour le faire à ce moment-là. J'avais juste besoin, en fait, un peu de temps de comprendre des plus grands groupes pour, en fait, me forger ma propre vision et ensuite créer quelque chose qui me parle. Donc, j'ai pris finalement ces 3 ans-là pour me préparer finalement à entreprendre.
Et comment tu te sors de cette période-là? Qu'est-ce qui fait que tu as un vrai déclic pour quitter Wavestone et entreprendre?
Alors, au bout de 2 ans, clairement, je savais que le conseil, c'était fini pour moi. Et en fait, il m'a fallu 1 an pour savoir pour comprendre que je voulais ouvrir des restaurants. En gros, pendant un an, chaque jour, je voulais monter une boîte, mais je savais pas exactement quoi. Et du coup, j'ai écrit toutes mes idées sur un carnet.
Ouais.
Et en fait, j'ai remarqué que j'ai une dizaine d'idées. Et en fait, 6 idées sur 10, c'était autour de la bouffe.
Voilà. Bon, bah, au moins, comme ça, t'es éclairée.
Exactement. Tu vois, justement, des projets de traiteurs. Enfin, j'ai étudié pas mal de trucs. Et donc, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, la bouffe, ça me tenait vraiment à cœur.
Ouais.
Que moi, je voulais vraiment avoir un impact positif sur les gens. Ça, c'était vraiment ce qui m'animait. Comment rendre les gens heureux, en fait. Et je crois qu'à travers la bouffe, c'est exceptionnel.
Donc là, le lieu de vie, cette histoire de lieu de vie un peu joyeux, ça revient, là.
Exactement.
Et la bouffe.
Et la bouffe.
Et à quoi ressemble le projet, alors que, qui semble retenir ton attention?
Bah, en fait, le déclic, vraiment, je l'ai eu pendant cette année de recherche. À un moment, je suis partie en Iran pour voyager pendant 3 semaines. Et en fait, tu vois, je me posais une après-midi sur un tapis iranien à prendre le thé. Et je commence à raconter cette idée de restaurant. Et je lui dis, non mais imagine un resto, mais comme à Shanghai, où on sert des bao, parce qu'en fait le bao c'est trop addictif. Il y aurait des bao en produits stars, mais aussi d'autres classiques de la cuisine chinoise. Enfin, en fait, je commençais à imaginer le projet là pendant ce voyage. Et en fait, ça s'est formé. C'est-à-dire que mes mots ont commencé à former le projet, à former le concept. Et en fait, à mon retour de ce voyage, et là j'ai eu le déclic, là je l'ai senti, pas le gut, le fameux gut feeling.
Le fameux, ouais.
Exactement, là
il y a l'évidence. C'est une évidence, t'écris tout, et ça ressemble déjà à ce qui va devenir quelques mois après Petit Bao.
C'est exactement ça.
C'est fou ça.
C'était les premières graines en fait.
J'adore ce moment où dans la tête de l'entrepreneur, on se dessine le projet, et en général, il s'exécute quasiment tel qu'ils l'ont imaginé. Quoi.
C'est exactement
ça. Comment tu te lances? Qu'est-ce que tu fais en premier?
J'arrive à Paris, je démissionne.
C'est déjà,
un gros pas. Je démissionne.
Ah, donc t'es suffisamment en confiance pour te dire, allez, j'y vais.
Ouais, complètement.
Tu démissionnes. Qu'est-ce qu'en pensent les parents à ce moment-là?
Sans chômage, sans rien. Enfin, tu vois, pas de rupture conventionnelle. Gros risque. Mes parents, ils m'ont traité de tous les noms, là. Je suis folle.
Surtout que tu leur dis que tu vas bosser. Tu leur dis le projet? Tu leur dis que ça va être un resto?
Oui, je leur dis, j'aimerais bien ouvrir un restaurant.
Comment ils vivent le truc?
Non, mais là, ils me disent, je comprends pas, ma fille, comment tu peux faire un bac plus 5 et comment tu peux imaginer ouvrir un restaurant? Genre, tu ne comprends pas d'où on vient. Genre, on a tout fait pour que toi, tu n'aies pas cet avenir-là, en fait.
Ouais.
Parce que pour eux, le restaurant, c'est ce que font les populations, tu sais, immigrées et passées, mais pour survivre. C'est un acte de survie. Parce qu'ils ont pas d'autres compétences pour faire autre chose. Tout ce qu'ils savent faire, c'est cuisiner leur cuisine. Et en fait, le restaurant, c'est vraiment un acte de survie. Ils comprenaient pas comment on pouvait décider en conscience de se lancer là-dedans. Et ils me disaient surtout, t'es une femme, le restaurant, c'est dur, travailler tous les jours, tu t'es debout tout le temps, tu portes des choses lourdes. Enfin,
c'est vrai, tout ça, mais toi, t'es en confiance à ce moment-là. Et puis, tu peux te rebeller. Là, à ce moment-là, tu te rebelles. Tu
ça dis t'es
non.
Pas découragé.
Ouais,
gros acte de rébellion là. Et je leur dis non, moi c'est ce que je veux faire. Je suis pas heureuse en fait je suis pas heureuse à travailler dans une grande boîte française. J'ai essayé. Enfin, c'est pas comme si j'avais pas essayé.
Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien.
Voilà, j'ai essayé.
T'as essayé la voie salariale. Voilà. C'est pas pour toi. L'entrepreneuriat, c'est un peu le fil conducteur. Tu dis, je suis prête.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des gens au tout début à qui tu pitches le projet, qui confirment que t'es sur le bon chemin et que le projet est génial? Est-ce qu'il y a eu, des rencontres au tout début qui t'ont conforté dans ce projet?
Ouais, alors, en fait, je pense qu'avant ma décision, non. Parce que là, je pense que j'ai vraiment fait l'acte un peu inconscient, mais que t'as besoin de faire, en fait, pour passer à la suite. Et ensuite, une fois que j'étais chez moi et que je travaillais sur le concept, le business plan, le business model, j'ai appelé des entrepreneurs dans la food.
Ouais.
J'en avais appelé quelques-uns, et dont les fondateurs de Paris New York.
PNY.
Et en fait, là, j'appelle Graphie pour lui poser des questions et pour qu'elle m'aide. Et du coup, en fait, ses réponses m'ont aidé à peaufiner le projet. Et en fait, à la suite de ce call, je lui dis, et d'ailleurs, est-ce que tu cherches des gens pour faire du service?
Juste un mot pour nos auditeurs, tu peux rappeler ce qu'est PNY?
Oui, PNY, c'est des restaurants de burgers.
Ils sont connus, mais je préfère qu'on le rappelle. Ouais, vas-y.
Complètement, ils en ont plus d'une dizaine aujourd'hui.
Ouais, ça cartonne.
Ça cartonne, des designs ultra beaux, vraiment ultra beaux, qui sont designés par Rudy d'ailleurs, et les meilleurs burgers de Paris.
Ouais. C'est deux fondateurs, hein, c'est Rudy et Graphie.
Rudy et Graphie.
Qu'on salue, et donc quand tu pitches Graphie, tout de suite elle te dit, mais ouais, c'est une super idée. Tu lui pitches quoi? Comment tu la pitches à ce moment-là? L'idée de Petit Bao, qui s'appelle peut-être pas encore Petit Bao.
Oui, alors je pense que c'était pas vraiment un pitch.
Ouais.
C'était plutôt, je lui expliquais ce que je voulais faire. Et j'avais des questions assez financières, notamment au niveau du prêt des banques, l'investissement. placements à mettre, comment est-ce que je pouvais convaincre des banques. Ouais. Et c'est assez fou. Il y a une phrase de Graffi qu'elle m'a dit à ce moment-là qui me marque toujours, c'est « l'argent n'est jamais un problème. En fait, tu trouveras toujours des solutions. » Alors que, en fait, au début, quand tu entreprends, t'as toujours peur.
On est obsédé par ça, bien sûr. C'est le moyen principal, évidemment.
Exactement. Et surtout quand ça part sur des montants qui sont assez conséquents, dont t'as pas l'habitude de traiter au début. Elle me dit, l'argent, c'est pas important. Comment ça?
C'est sur ta tête, on va y revenir après, exactement. Mais t'as quand même la responsabilité en première ligne. Quel est le projet à ce moment-là, concrètement, alors?
Alors, bah, le projet, c'était vraiment de... Je voulais toujours redorer l'image de la cuisine chinoise et je voulais en fait en créer un concept beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool. Parce que je voyais que les concepts japonais, vietnamiens, thaïlandais, en fait, commençaient à faire fureur à Paris. Ouais. Mais qu'il n'y avait rien de ce type-là sur la cuisine chinoise, alors que c'est une cuisine qui est aussi bonne.
Quel est l'état de la concurrence des restaurants chinois à Paris avant que tu crées Petit Bao?
À l'époque, en fait, ce qu'on voyait, c'était soit les traiteurs chinois qui sont vraiment partout, avec une cuisine qui est simple, rapide et très, très, très abordable. Et après, de l'autre côté, il y avait des restaurants traditionnels chinois, mais qui mélangeaient les cuisines chinoises, cambodgiennes, vietnamiennes, souvent, en fait, tenues par des immigrés qui sont d'origine chinoise, mais qui ont, sur leur parcours d'immigration, sont allés au Cambodge, au Laos, au Vietnam, et du coup, après, ont atterri en France. Et du coup, on fait cette cuisine-là qui reflète leur voyage d'immigration. Et sinon, derrière, t'avais des restaurants gastronomiques, type Shank Palace. Ouais. Voilà. Et en fait, où on ne peut pas y aller tous les jours.
C'est trop élitiste.
Et c'est trop élitiste, exactement. Et moi, je trouvais, en fait, qu'il manquait justement le restaurant, le casual, le casual dining chinois, qui soit toujours abordable pour que tout le monde puisse y aller. Avec une cuisine qui soit très très bonne et toujours accessible à tous.
Accessible mais de qualité, ouais, c'est ça.
Exactement.
Donc qu'est-ce que tu fais chez PNY et qu'est-ce que tu apprends là-bas?
Alors, j'ai commencé à être serveuse. Du coup, j'ai fait deux services.
Ah, je savais pas. Ah, t'as commencé serveuse, d'accord.
Oui, parce qu'en fait, quand je les ai contactés, enfin, en vrai, je lui ai demandé si je pouvais être serveuse parce que je voulais en fait comprendre comment on gérait un restaurant de l'intérieur. Ouais. Je me suis dit, je vais commencer au bas de l'échelle.
Un poste accessible, voilà, ok.
Exactement. Et pour moi, c'était important de comprendre le fonctionnement. Et donc, j'ai fait deux services. Et c'est, d'ailleurs, franchement, personne ne le sait, mais le moment où j'allais chez PNY servir, j'étais payée à l'époque, tu vois, en tarif d'extra, donc 10 euros de l'heure. Et là, j'étais dans ma tête, mais j'ai quitté mon job à la Défense. Et là, je vais servir un déburger. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais?
Enfin bref, mais il y a quand même des doutes.
Mais bien sûr. Donc je commence, mais en fait, au bout du deuxième service, Rudy, il était là. Donc on discute de mon projet. Là, je lui présente ce que j'ai en tête, et en fait, il me dit, bah viens me voir pour qu'on en parle. Et en fait, on en parle, mais il me propose aussi de l'accompagner sur le développement de ses restos. Et donc j'ai été leur bras droit.
Bah, c'est cool, c'est une très bonne école. Là, ça te permet encore mieux comprendre le business et le restaurant.
À la base, je voulais rester 6 mois parce que je voulais les aider et ensuite moi derrière me reconcentrer sur mon projet. Mmh. Et au final, on s'était lancé dans l'ouverture d'un nouveau resto et du coup, je suis restée jusqu'à l'ouverture de leur resto.
Donc c'est bien, tu les accompagnes dans l'ouverture d'un restaurant, ce qui te permet toi de voir tous les détails de l'ouverture d'un restaurant, la recherche du lieu, l'aménagement. On va y revenir. Je crois qu'il y a un point important aussi, c'est que c'est eux qui t'ont fait rencontrer celui qui va devenir ton associé.
Tu
peux nous raconter comment ça se passe et ensuite nous parler de lui.
Mais oui, en fait, du coup, c'est un mois avant de partir de Paris-New York. Donc, ils savaient que je partais. Billy, donc mon associé, était allé les voir parce qu'il...
Billy Pham,
ouais. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, il cherchait à ouvrir un concept de restaurant asiatique. Lui, il vient du milieu de la franchise. Il avait des franchises Subway, Bagelstein.
Donc, dans la bouffe, lui.
Dans la bouffe aussi.
Ça, c'est cool. Lui, pour le coup, il a une expérience vraiment dans la restauration.
Exactement. Et dans la gestion, tu vois, de plusieurs restos et très fort dans les opérations. Et en fait, ce qui était dingue, c'était exactement les compétences qui me manquaient. Ouais. Et donc, en fait, on...
Le beau binôme.
Bien complémentaire. Exactement. Ouais. Hyper complémentaire. Et donc, Rudy dit à Billy, faut absolument que tu rencontres Céline. Et donc, on s'est pris des cafés. 3 cafés à Paris. Et ensuite, au bout du 3e, je lui dis, en fait, moi, je vais aller à Shanghai là pour prendre des cours de cuisine. Parce que après avoir maîtrisé la salle et la gestion des opérations et la gestion de plusieurs des établissements, ce qui me manquait comme compétence, c'était la cuisine chinoise.
Ouais, voilà, bien sûr, ouais.
Et moi, j'avoue, je suis plutôt du genre à essayer de comprendre, enfin, à comprendre un peu tous les domaines pour en faire quelque chose. Donc, j'avais besoin vraiment de...
Tu cuisinais, toi, avant, ou un petit
non.
peu?
Non. Ça, faut pas trop le dire, mais...
on va couper au montage.
Non, je crois pas. En vrai, la cuisine m'est vraiment venue avec l'ouverture des restaurants.
Donc là, vous partez à Shanghai. Toi, tu pars à Shanghai?
Je pars à Shanghai et en fait, Billy me dit, je viens avec toi.
Ok, donc vous partez ensemble.
Et on part ensemble.
Ça, c'est le test.
C'est le test. Et c'est génial parce qu'un voyage, c'est exceptionnel pour savoir si on peut s'entendre en tant qu'associé. Et donc, on a passé un mois ensemble, à la fois à prendre des cours de cuisine. Tu as des cours pour faire des nouilles maison, des bao maison, les plats au wok.
Donc là, la carte commence à
exactement.
Construire des petits bao. Ouais.
Exactement. Moi, en vrai, j'étais arrivée avec mes cours de cuisine avec déjà une idée de la carte. Et je leur ai dit, je vais apprendre ça. Et du coup, en fait, en sortie de ces cours, j'avais déjà 70% de la carte de petits bao qui était faite.
Et c'est qui vous donne ces cours? C'est quel type de profil?
C'était une école de formation de cuisine. Et du coup, c'était des chefs chinois, mais spécialisés dans leur expertise. Donc en fait, tous les jours, j'avais un chef différent, mais qui était expert dans son domaine.
Expert du bao, expert des
raviolis. Expert des nouilles, c'est exactement ça. Ah, expert du wok. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on peut retirer de ce voyage en termes d'association avec Billy?
Déjà, on a passé beaucoup de temps ensemble, donc on a appris à mieux se connaître. On a quand même vécu des moments qui étaient marrants, pas évidents en voyage. T'as toujours des petites merdes en voyage. Et en fait, on a vu que dans des situations qui étaient un peu difficiles comme ça, comment est-ce que l'un et l'autre réagissaient?
Le stress test.
Stress test. Et en fait, à chaque fois, on réagissait hyper bien. Enfin, ensemble, en tout cas, on était là, ah, le moto tombe en panne, il fait moins 10 degrés, c'est pas grave. Enfin, tu vois, on trouvait une solution.
Ça, c'est de bonne augure. Parce que forcément, l'entrepreneuriat, tu vas t'en prendre de trois, donc t'es contente d'avoir un mec solide à côté.
Ouais, c'est exactement
ça. Quel bon état d'esprit.
Exactement. Donc, bon état d'esprit. Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes valeurs.
Même vision.
Et la même vision. Et donc ça, je pense que c'est les points clés.
Tout le projet, vous le construisez du coup pendant votre voyage. Vous revenez avec un projet bien défini.
Alors, on l'avait déjà pendant nos trois cafés. On avait quand même, moi j'avais déjà écrit, formalisé pas mal de choses. Donc on se les partageait, on échangeait, on avait fait pas mal de ping-pong déjà. À Shanghai, l'idée c'était vraiment de à peu près finaliser la carte. Ce qu'on a fait est vraiment de positionner le prix en termes de, enfin le menu en termes de prix et d'offres.
Ouais.
C'est ce qu'on a vraiment fait et de sizer aussi la taille du restaurant. Et donc en fait à ce moment-là on s'est dit on va commencer par une taille de 50 couverts. C'était le modèle avec lequel on était à l'aise.
Bah, vu qu'on rentre là concrètement dans le projet Petit Bao, pourquoi construire la carte autour des bao et peut-être rappeler à nos auditeurs ce que c'est d'ailleurs que les bao?
Oui, alors les bao c'est en fait une bouchée vapeur en forme de bourse. Pao, en fait, ça veut dire bourse, qui contient un trésor. Ouais. Le trésor, c'est la farce.
La farce.
Exactement.
C'est beau.
et le bouillon. Non, il y a pas forcément un bouillon.
Il y a deux types de bao qu'on fait chez nous. Le chalon pao, donc il y a une pâte fine avec une farce et un bouillon à l'intérieur. Et du coup, c'est une explosion en bouche, c'est exceptionnel. Ouais. Et tu as le pao zi, qui est la brioche vapeur, donc plus moelleuse, beaucoup plus fluffy, plus grosse, très réconfortante et gourmande, qui contient une farce qui peut être à la viande ou aux légumes.
Et là, il y a pas de bouillon.
Et là,
je pensais qu'il y avait toujours un bouillon dans les baos.
C'est juicy, ouais. Mais t'as pas l'explosion en bouche comme tu peux avoir dans
c'est
le
chalon. C'est ça, pour les auditeurs qui connaissent pas, mais c'est ça qui est unique en termes d'expérience gustative, c'est d'avoir le bouillon qui éclate en bouche au moment de la dégustation, puis évidemment toutes les saveurs en fonction de ce qu'on met dedans. Le bao, ce qui vous intéresse, c'est ça, justement, cette originalité, ça existe hein, déjà, évidemment, même à Paris, mais est-ce que c'est le produit qui vous intéresse ou est-ce que c'est aussi il y a un intérêt business du bao, genre un produit qui est facile à dupliquer, je sais pas.
Il y a deux intérêts business. Le premier, c'est le côté en fait addictif du bao et le fait que c'est un peu le sandwich chinois. Non, ce que j'aime, en fait, ce que nous on voulait des cantines qui soient vraiment dans lesquelles les gens pouvaient venir de manière très très régulière. On voulait pas être un restaurant que les gens allaient faire une fois dans l'année, plutôt un restaurant où les gens pouvaient faire une fois par mois.
Ouais.
Et donc pour faire un restaurant une fois par mois, il faut un produit comme le burger, les pâtes, quelque chose en fait sur lequel tu peux revenir de manière très régulière. Et en fait le bao a vraiment cette fonction là. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait le bao, c'est très difficile à confectionner.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut un vrai savoir-faire pour le pliage de la pâte, ça demande une vraie expertise et en fait c'est une barrière à l'entrée pour la concurrence.
Ouais.
Et du coup quand on a décidé de faire ça, on s'est dit si on arrive à le faire bien et très bon et qu'on arrive en plus à en faire un business rentable, on s'était dit en fait on aura tout gagné parce que du coup ça nous met déjà en fait en avance par rapport aux autres et clairement c'est pas facilement copiable. Comme produit.
Justement, j'ai une question par rapport à ça parce que on reviendra après, vous avez eu un succès très rapide, vous avez eu en plus dégager de la rentabilité qui vous a permis d'ouvrir d'autres restaurants, mais pourtant en effet, tu viens de le dire, le bao c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à faire, qui nécessite de la manœuvre, donc du coup qui est cher à produire. Comment vous avez fait pour rendre cette activité rentable et qu'est-ce qui justement dans le business plan à ce moment-là rend crédible le fait de pouvoir se développer très vite?
Alors, du coup, nous, on est rentable sur les baos, mais aussi au vu du prix qu'on applique.
Ouais.
C'est-à-dire que comme c'est un bao qui est fait main par nos maîtres baos avec de la farine bio d'Île-de-France, on peut pas se permettre de le vendre au même prix que sur un traiteur, parce que clairement, il y a un travail qui est beaucoup plus profond, approfondi,
ouais,
et valorisant. Et donc, du coup, nous, notre bao d'entrée est à 3 euros. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce prix-là.
Donc plus cher que ce qu'on va trouver sur le marché.
Exactement,
à ce moment-là.
Exactement.
Mais ça reste quand même accessible. Et ce qui est en ligne avec ta vision, c'est proposer une restauration accessible. Mais positionnement premium.
Exactement. Un peu plus premium, mais qui reste accessible.
Ouais, premium par rapport à l'offre existante, ouais, à l'époque. En
fait. Exactement. Exactement. Et du coup, clairement, nous, ce qui se passe avec le bao, c'est qu'on a une main d'œuvre qui est forte. Ouais. Mais en fait, sur les autres produits, sur les classiques de la cuisine chinoise, l'important, c'est les sauces. Et ensuite, c'est la découpe, finalement, de tous les légumes et de tous les ingrédients qui permettent d'assembler, en fait, le plat.
Ouais.
Mais ce qui fait le tout, c'est les sauces. Et après, c'est des techniques, mais qui peuvent être, finalement, assez faciles. En
donc,
tout cas, sur tous les plats au wok.
Nécessite moins de main-d'œuvre, donc un peu plus rentable.
Exactement.
Main-d'œuvre moins qualifiée aussi, ouais, donc plus facile à trouver.
Exactement.
Je crois qu'il y a un autre sujet aussi, c'est le fait que vous affichez, mais c'est devenu plus à la mode maintenant, hein, c'est pas du tout de réservation, un peu sur le modèle des Big Mama, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rotation.
Oui, c'était important pour nous, au début en tout cas, de ne pas mettre de réservation, notamment sur nos modèles de cantine, que sont Petit Bao et Gros Bao,
ouais,
parce que au vu du... Enfin, c'est un modèle qui marche avec le volume qu'on fait.
Il faut faire du volume pour générer de la valeur.
Exactement.
Et ça, c'est notamment par le fait qu'il n'y a pas de réservation, donc l'idée, c'est vraiment de créer de la rotation sur les tables, c'est
exactement
ça.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ce qui fait que sur certains... Enfin, les tables peuvent tourner entre 2 et 4 fois.
Ouais, ça, c'est plus... Bon, ça se voit maintenant un peu plus, mais ça, c'est plus original par rapport à la restauration, et certainement plus la restauration chinoise traditionnelle, où on est plus dans le restaurant classique, on réserve, mais par contre, on fait que 2 services.
Exactement. Mais ça, c'est vraiment sur nos modèles petit bao, gros bao.
Ouais, parce ça a évolué après, voilà.
Ça a évolué, ouais.
Quelle est votre ambition à ce moment-là dans votre business plan? Est-ce que dans vos têtes, vous avez déjà pour but d'ouvrir plusieurs restaurants? Ou est-ce que pour l'instant, vous limiter à un seul lieu?
Ça, c'est la question.
Tous les deux, avec Billy, on savait qu'on voulait ouvrir déjà un groupe de restaurants.
D'accord.
On savait que l'ambition, ça allait être pas que un, mais plusieurs.
D'accord.
Par contre, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite.
On est d'accord. Ouais.
Voilà. Non, ça a été fou. En vrai, pour être complètement transparente, ce qu'on pensait en termes de business plan, c'était, on s'était mis 800 000 euros de chiffre d'affaires pour la première année.
Mmh.
Parce que c'était 1 million.
C'est déjà pas mal, hein.
Ouais, voilà. Exactement. 1 million, ouais, meilleur scénario. Et moi, ce que je voulais, c'était remplir tous les jours, midi et soir. Mais on n'attendait pas à ce qu'il y ait un volume aussi fort. Et en fait, on est arrivé. Clairement, on était là pour tout casser. Enfin, on était là, en tout cas, pour faire les choses très très bien. Et on a eu un succès en fait fulgurant tout de suite. Alors qu'on pensait que ça allait prendre un peu plus de temps. Donc nous, on avait tout imaginé sur le fait que ça prenne un an. Et en fait, au bout de 3 mois, on sentait que c'était dingue, que l'engouement était dingue. Et au bout de 3 mois, je dis à Billy, OK, là, c'est le moment. Là, il faut qu'on aille chercher le deuxième restaurant.
Oui, vous n'avez pas perdu de temps.
Donc ça, on va y revenir. Parlons encore du projet. Après, on va parler de l'ouverture et de son succès. Le financement, quelques mots sur le financement. Comment vous financez la première, parce que ça explique aussi beaucoup de choses pour la suite. Comment vous financez la première, le premier?
Le premier, il a été autofinancé.
Billy et moi,
en fonds propres, ouais, et bancaires. Ouais. Ouais. On n'a pas fait de levée pour le premier.
Et les banques, ça se passe? C'est difficile. Toi, t'as pas vraiment d'expérience dans la restauration.
Ouais.
C'est le profil de Billy qui fait la bascule. Comment ça se passe? Raconte-nous le financement.
En fait, à ce moment-là, dans notre association, c'était moi qui était venue avec mon idée de concept, de projet, de business plan. J'étais en lead sur le projet. Ouais. Et en fait, je pouvais pas mettre Billy encore je présentais pas encore Billy auprès des banques.
Ouais.
Et en fait, j'y allais toute seule avec mon profil en mettant Billy comme expert.
Ça devait être chaud.
Voilà.
Ça.
Ouais. C'était très chaud. Moi, je me suis pris beaucoup de recul au début.
Connaître un peu les banques, à mon avis, ça n'a pas dû passer.
Ouais.
Ouais, non, c'était très dur. Et du coup, ce qu'on te dit, c'est que première expérience, primo-accédant, très compliqué. J'étais jeune, pas beaucoup d'expérience dans la restauration. J'étais pas chef.
Mais on n'a même pas dit ton âge à ce moment-là. T'as quel âge? C'est ça, c'est important.
J'avais 27 ans.
27 ans, c'est hyper jeune pour...
Ouais. C'est pas exactement la même.
J'ai l'impression que vous avez le même profil avec Elisa.
Ouais.
Et donc les banques, c'est plutôt non au début. Et comment ça bascule alors?
C'est
quel
très
est l'argument? Parce que ça va intéresser nos auditeurs et tous les entrepreneurs qui nous écoutent.
Alors en fait, ce qui est génial et ce qui est hyper important quand on entreprend, c'est vraiment notre réseau. Et c'est les gens qui t'accompagnent autour de toi. Et donc quand t'es face à des murs, enfin, tu sollicites ton réseau pour essayer de trouver des solutions possibles. Et donc en fait, PNY, je les ai contactés à ce moment-là. Et en fait, ils m'ont introduit à un contact de la BPI. Qui déjà, en fait, donc je les ai rencontrés, ils ont vachement adhéré au projet. La BPI, on est approche beaucoup plus entrepreneuriale que les banques. Ils comprenaient déjà la vision du projet. Et en fait, ils m'avaient donné un accord pour la contre-garantie.
D'accord, c'est important.
Ça, c'est hyper important. Ça rassure les banques. Mmh. Et ensuite, j'ai aussi vu avec eux pour un financement.
C'est bien de les gérer en direct parce que souvent, en général, c'est les banques qui contactent la BPI.
Ouais.
Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as allé baquer le sujet avec la BPI avant. Et quand tu vas voir la banque en disant que j'ai la garantie de la BPI, forcément, ça se passe
bien. La BPI est plus convaincable parce que plus une approche entrepreneuriale que les banques.
Donc ça, c'est un bon tips.
C'est exactement ça. Bon. Donc en fait, je vois la BPI, finalement, j'obtiens une contre-garantie plus un cofinancement. Et une fois que j'avais le cofinancement de la BPI, les banques...
Tu es arrivé avec quel apport, du coup, en pourcentage par rapport à ce que tu demandais à la banque?
Alors, du coup, en gros, moi, j'avais mis 100 000. Billy avait mis 38 000. Mmh. Et ensuite, on demandait 500 000 de prêt.
Oui, c'est quand même un gros prêt. Pour,
c'est moins de 30%
c'est ça.
Recommande, ouais.
Très bien. D'ailleurs, la répartition entre vous, parce que tu l'as dit, hein, l'idée, elle vient de toi au début. T'as plus de capital.
J'en ai un peu plus que lui.
Toi, t'es majoritaire. Ouais. Et comment vous répartissez les rôles à ce moment-là dans la structure?
Alors, à ce moment-là.
Avant l'ouverture et après. Hein,
Alors, en fait, ça s'est défini assez clairement parce qu'il lui, il avait ses compétences de gestion des opérations, de développement, de recherche de nouveaux locaux, plus finance. Beaucoup plus fort que moi sur ces sujets-là.
Ouais.
Et moi, du coup, je venais avec toute la partie concept, vision, DA, à la fois des lieux et des cartes, food et drinks.
Ouais. Très cool. Donc, toute la partie marque, justement, la partie recette et la partie marque. D'ailleurs, la marque, un mot, quand est-ce que vous décidez de déposer Petit Bao? Est-ce que vous déposez d'autres, vu que tu l'as dit tout à l'heure, vous aviez une ambition d'ouvrir d'autres restaurants, est-ce que vous déposez Bao Family? Quelle est ta vision de la marque d'ailleurs à ce moment-là, avant la création?
Tu vois, au début, c'était Petit Bao, même le compte Instagram s'appelait Petit Bao. Donc on n'avait pas encore une vision qui allait. On n'avait pas encore la vision Bao Family.
Intéressant ça.
Et en fait, c'est au moment de l'ouverture de Gros Bao. Donc on s'est posé la question du groupe. et là est venu, en fait, le nom Bao Family qu'on a introduit juste avant l'ouverture de Gros Bao.
Ouais.
Est-ce qu'initialement, vous pensiez avoir plusieurs lieux qui s'appelaient tous Petit Bao?
Je pense que c'était un peu l'idée au début.
Comme PNY, en fait.
Comme PNY.
Dupliquer le business qui marche.
Ouais. Exactement.
En format de chaîne plutôt classique.
Complètement.
Ce
qui aurait du sens. Et d'ailleurs, au moment où on ouvrait Gros Bao, on a encore allé voir tous nos potes entrepreneurs.
Ils ont tous dit faire ça. Bah ouais.
Ils nous ont tous dit, mais dupliquer Petit Bao, pourquoi est-ce que vous voulez ouvrir un autre resto plus grand, avec pas la même taille? Tout le monde nous a dit non, en vrai. Et en fait, on y allait quand même.
Ouais. Alors, on arrive à la fin de ce premier chapitre. On va parler maintenant de l'ouverture concrète de Petit Bao et des autres restaurants. Donc, on va pouvoir approfondir ce que tu veux nous dire. Et comme je disais en intro, le succès a été fulgurant. C'est assez unique dans le business de la bouffe. Donc, on veut tout comprendre. Allez, à très vite.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.